9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
À chaque élection, sa promesse de suppression d'impôts. Cette année n'a pas dérogé à la règle avec une annonce qui n'est pas sans nous laisser indifférents ici à Culture Média, puisqu'il s'agit de la fin annoncée de la redevance audiovisuelle, fin imaginée par le président Emmanuel Macron. Le sujet des impôts est en effet explosif en France et pas seulement, et le souvenir récent du mouvement des Gilets jaunes est là pour nous le rappeler. Un documentaire diffusé ce soir sur Arte revient sur plusieurs siècles de lutte et de contradictions. Bonjour Xavier Viltard.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci d'être là avec nous en direct. Vous êtes le réalisateur de cette histoire populaire des impôts, documentaire en deux parties, documentaire qui débute au Moyen-Âge. À quoi ressemblaient les impôts à cette époque? Comment en est l'idée?
La naissance de l'impôt coïncide avec la naissance des États, et les États naissent au Moyen-Âge dans leur forme moderne. Et ils naissent pendant la guerre de Cent Ans, à la fois des deux côtés de la Manche. C'est à ce moment-là qu'il y a la guerre de Cent Ans nécessite beaucoup d'argent. Mm-hmm. Les rois ne peuvent plus seulement avoir leur domaine royal pour exister.
Auparavant, c'était des seigneurs qui avaient des grandes fermes. C'était d'immenses propriétaires mm-hmm. terriens, et le revenu de leurs terres suffisait à les faire vivre. Oui. Mais tout d'un coup, ça ne suffit pas. Les dépenses de la guerre sont trop fortes. Il faut trouver une autre solution.
Voilà. Et donc, c'est la solution inventée par les rois de France à cette époque et le roi d'Angleterre. Sauf qu'il y a une différence majeure entre le roi de France et le roi d'Angleterre, c'est que le roi d'Angleterre, les nobles, ne veulent pas donner le pouvoir absolu au roi de taxer, ils veulent pas se faire taxer sans donner leur avis, quoi. Mmh. Voilà, grosso modo, c'est la naissance du consentement à l'impôt qui aboutit à un prémisse de démocratie. Tandis que les rois de France contournent cette difficulté d'imposer les nobles et le clergé en ne les imposant pas et en imposant juste le tiers-état. Donc, mettant les taxes sur la force de travail, sur ceux qui créent la richesse.
Ça démarre non pas avec des taxes sur l'argent, parce qu'il y a vraiment de richesse, il y a beaucoup, beaucoup de troc. C'est la gabelle, c'est l'impôt sur le sel qui a donné le mot salaire.
Voilà.
Soit dit au passant. Mmh. Dès les premiers impôts en France, le peuple, se révolte. Ce sont les grandes jacqueries. Comment se manifestent ces luttes?
Les jacqueries se manifestent partout en France et même à l'étranger. En Allemagne, il y a la guerre des pauvres. En Angleterre, il y a d'autres révoltes. Parfois, les gens ne peuvent plus payer. Les fermiers généraux, qui sont ceux qui collectent les impôts à l'époque, sont une véritable milice privée. Ils rackettent les gens, littéralement. Et les gens sont souvent ne peuvent pas payer. Donc, c'est exactement comme ce qui a poussé la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Puisqu'ils ne peuvent pas payer, ils se révolte. C'est ce qui a poussé aussi la poll tax en Angleterre. Can't pay, don't pay. Voilà.
Le paroxysme de cette révolte contre les impôts, ce sont les états généraux de Versailles en 1789. Il y a des cahiers de doléances qui remontent de toute la France. Et vous avez un parti pris dans votre documentaire, les accoler à celle des Gilets jaunes. On va écouter une lecture des doléances. Alors écoutez bien, ce sont les doléances de 1789 et puis celles de 2019.
Que les impôts présents et futurs seront également répartis sur tous les citoyens de tous les ordres, dans la seule proportion de leurs facultés et sans distinction de rang, de naissance et de privilège.
Les habitants de la ville d'Aigurande demandent la suppression de la corvée. Ils sont imposés à la somme de 1300 livres pour des chemins dont ils sont éloignés, tandis que tous les chemins qui aboutissent à leur ville sont affreux et impraticables.
Ce qui réunit les écrits de 1789 et ceux de 2019, c'est la fiscalité. Le thème de l'égalité devant l'impôt est le plus abordé.
Égalité de tous devant l'impôt. Chaque citoyen doit contribuer, même une petite somme.
Nous voulons la protection des biens communs, la fin des privilèges, le droit à la dignité.
Stop aux impôts croissants.
Pour vous, avez choisi d'accoler ces deux événements, ça sautait aux yeux ou vous avez un peu fait un grand écart?
Oh non, ça sautait aux yeux dès l'écriture du documentaire, parce que le film a commencé à être écrit au moment du mouvement des Gilets jaunes, et on s'est aperçu que sur les ronds-points, il y avait un énorme travail qui était fait sur la fiscalité. Donc on s'est un petit peu penché, on a essayé de les consulter, ces cahiers de doléances de 2019, d'ailleurs qui ne sont pas très facilement consultables.
Ah oui?
Oui, il faut
ça aller... Ça devait être public normalement, non, on avait annoncé que ce devait être public.
Non, ce n'est pas public, il faut être chercheur, il faut attendre 5 50 ans avant de pouvoir les consulter. Ce qui est un paradoxe, puisque c'est très facile de consulter les cahiers de doléances de 1789. Bon, ça, c'est encore une bizarrerie de notre époque. Mais c'est pour vous dire quand même que ces cahiers de doléances, ils sont un peu inflammables, puisqu'on les a un peu cachés en 2019. Mmh. Et il nous semblait important, leur force est assez explosive. Donc, d'abord, on voulait en donner la richesse. Et il se trouve qu'ils ont des tas de points communs avec ceux de 1789. Et que c'était, s'il est impossible de comparer le mouvement des Gilets jaunes à la révolution de 1789, c'est un point commun qu'il est important de noter.
Comme dans vos choix, il y a des items qui sautent aux yeux. Par exemple, ces habitants de la ville d'Aigurande qui se plaignent. On est en 1789. Ils disent qu'on paye trop d'impôts alors que notre ville, l'accès à notre ville est impraticable. Mmh. On a vu ça sur les gilets, sur les ronds-points. Mmh. Les gens disaient on paye, on se saigne pour payer les impôts. Mmh. Et en bas de chez nous, c'est dégueulasse.
Mmh. Voilà. Oui, il y a des points communs. Et
juste un mot, est-ce que c'est ce mouvement des Gilets jaunes qui est à l'origine de votre projet, ou est-ce que vous auriez fait de toute façon ce documentaire ?
Oh, je sais pas. Moi, je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais faire un documentaire sur les impôts. C'est pas une idée qu'on a comme ça très facilement. Je pense que le film était dans l'air du temps. Moi, on me l'a proposé. Il se trouvait qu'à ce moment-là, il y avait le mouvement des Gilets jaunes qui commençait. Il y avait aussi le livre de Gérard Noiriel, Histoire populaire de la France, qui fait bien remonter, lui, l'histoire populaire de la France. Il l'a fait remonter justement à la naissance des États et au même moment que la naissance des taxes. Donc, tous ces éléments conjoints m'ont conduit à me pencher sur les impôts. Mais autrement, ce n'était pas du tout dans mon plan, sur mon terrain de jeu.
On était au Moyen-Âge, on était à la Révolution française 1789, mais là où c'est vraiment une accélération folle arrive, c'est après la guerre de 14-18. On voit que tout change, c'est un marqueur absolument saisissant. Xavier Viltard, l'auteur de cette histoire populaire des impôts en deux parties. Nous aussi, on fait deux parties. À tout de suite dans Culture Média.
Philippe Vandel sur Europe 1. 9h-11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Histoire populaire des impôts, documentaire en deux parties, diffusé ce soir sur Arte, c'est à 21h, et c'est évidemment également à voir sur arte.tv. Son auteur est avec nous, c'est Xavier Viltard. Vous parcourez, Xavier Viltard, plusieurs siècles d'imposition à travers la France, l'Angleterre et l'Allemagne. On comprend que l'acceptation de l'impôt par les Français est quelque chose de très compliqué à obtenir, quelle que soit l'époque, je dis les Français. Mais on va voir que c'est un peu différent suivant les camps en Europe. D'abord, dans les années 20, il y a la création de ce qui ressemble à notre impôt sur le revenu. Comment est-il né, cet impôt sur le revenu ?
Oh, ça a été très compliqué en France. Il est d'abord né en Angleterre, vers les années 1840. Il naît avec la révolution industrielle. La révolution industrielle demande tellement de financement qu'il faut créer de nouvelles taxes. Les Anglais.
Il faut raconter ce qu'il y avait avant. Mmh. C'est qu'avant, on était taxé suivant ses terres. Mmh. Mais tout d'un coup, la richesse ne se fait plus par l'agriculture, mais dans les usines. Mmh. Et donc, il y avait de la richesse qui était créée sans que personne ne possède aucune terre. Mmh. Donc, il faut changer le moyen de collecter l'impôt.
Mais la France est un pays rural, donc elle a moins besoin de faire un impôt sur le revenu que n'a besoin de le faire la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. C'est pourquoi seule la guerre de 14, c'est pourquoi il y a 200 ou 230 projets d'impôt sur le revenu qui sont discutés pendant la Troisième République, et il y a le personnage qui arrive à le faire émerger n'arrive à le faire émerger qu'avec un taux de progressivité minimal. Mmh. Et il n'y a que la guerre de 14 qui, encore une fois, les guerres demandent beaucoup d'argent, qui fait passer ce taux dans les années 20, qui lui donne un taux de progressivité qui permet de réduire les inégalités de entre les gens.
Et vous montrez bien ça, cet effort de guerre demandé aux Français qui n'avaient pas voulu la guerre, à qui on demande en plus de financer quelque chose qu'ils n'avaient pas souhaité et qui va les faire mourir. On n'est pas là pour faire le procès de la guerre, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. La question de la dette habite plusieurs pays en Europe et des deux côtés de la Manche. Mais ce qui est très intéressant aussi, et ce que montre votre doc, c'est que l'idée de contribuer à cet effort national n'est pas vécue de la même manière dans chacun des pays.
Il existe déjà là une culture fiscale. Et les Britanniques ont plutôt été d'accord pour voir les impôts augmenter fortement dans les années 20, en particulier les taxes sur la consommation, qui sont pourtant considérées comme les prélèvements les moins équitables.
Contrairement aux Britanniques, les Français ont une culture fiscale encore embryonnaire. Riches ou pauvres, nombre de citoyens ont du mal à s'accoutumer à l'impôt sur le revenu, qu'on appelle alors l'impôt des poires. Les plus riches vont trouver des solutions pour mettre leur fortune à l'abri et ne pas payer d'impôts. Ils découvrent l'Eldorado de l'évasion fiscale.
C'est dans les années 20 que les banques suisses commencent à faire dans la presse française des publicités à l'égard des Français les plus riches pour leur dire vous pouvez mettre votre argent dans les banques en Suisse.
Et alors ce qui est absolument extraordinaire dans votre documentaire, ce qu'on y apprend, c'est qu'on pensait que c'était une sorte de vertu voulue par les banques suisses. Ce concept de secret bancaire, pas du tout.
Ah non, le concept c'est inventé pour pouvoir récupérer les capitaux des pays voisins. Oui. Ça commence.
C'est pas du tout une protection humaniste de la vie privée de tel ou tel ou tel.
Non, ça commence juste.
C'est totalement mercantile.
Ça commence avant la Première Guerre mondiale et ça réussit. C'est pour capter les fortunes de ceux qui ne veulent pas payer l'impôt sur le revenu et surtout après, en ce qui concerne l'Allemagne, tous ceux qui ne veulent pas être aussi taxé énormément parce qu'il faut justement payer l'effort de guerre et les dettes colossales qui sont demandées à payer à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est le fameux traité de Versailles voilà. Qui on a demandé réparation de la guerre de Versailles à l'Allemagne et qui du coup payait double peine, elle avait déjà tout perdu, elle devait en plus rembourser ce qu'elle n'avait pas en soute, si j'ose dire.
Ce qui a failli provoquer une révolution en Allemagne, la révolution allemande.
Voilà, et ce qui a peut-être, on ne va pas refaire l'histoire, causé l'avènement d'Hitler. Vous comparez la situation française à celle de l'Angleterre, à celle de l'Allemagne, pourquoi ces trois pays-là? D'abord parce qu'Arte est une chaîne franco-allemande, j'imagine.
Oui, d'abord, c'est effectivement...
En posant la question, je me rends compte de la chose.
C'est effectivement un bon début, mais ensuite, moi, je me suis rendu compte que c'était ce qui m'a paru comme une contrainte au début était en fait une vertu, parce que pouvoir comparer ces quatre histoires, d'abord...
Ces trois histoires... France, Allemagne, Angleterre.
Oui, permet de saisir leurs particularités. Les Anglais ont une culture fiscale qui est tout à fait différente des Français et des Allemands. Les Allemands, on comprend pourquoi ils ont si peur de l'inflation quand on voit que par deux fois au XXe siècle, le Deutsche Mark ne valait plus rien du tout. Donc je trouve que et les Anglais mettent toujours un peu le désordre font des choses un petit peu toujours accentuées.
Il y a quelques pays qui échappent à la doxa en matière d'impôts, plutôt où le consentement à l'impôt est bien supérieur à ce qui se passe en France, en Allemagne, en Angleterre, sont les pays nordiques. Ils payent beaucoup, beaucoup d'impôts. Et ça semble ne leur poser aucun problème. Pourquoi ils ne sont pas dans votre doc? Pourquoi ce choix?
Parce que il fallait se limiter à... Les trois pays, ils ont des histoires communes. Il y a des guerres entre ces trois pays. Donc, ils s'influent forcément les uns sur les autres. Et je ne pouvais pas multiplier une histoire de l'impôt mondial. Il aurait été intéressant d'avoir les États-Unis aussi dans le film. Parce que la façon dont Roosevelt a réagi à la crise de 1929 est intéressante. Mais je pense que j'avais déjà suffisamment de matière comme ça pour ne pas aller chercher d'autres choses.
Xavier Viltard, la première partie de votre documentaire débute au Moyen-Âge, elle se termine dans les années 80, avec la création de l'impôt sur la fortune en France et aussi de l'autre côté de la Manche, l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir. Et la seconde partie se déroule les années 80 à nos jours, la chute du mur, la crise de 2008 ou encore le Brexit. En quoi ces événements historiques, la chute du mur, la crise de 2008 ou le Brexit, ont à voir avec l'histoire des impôts?
Le premier épisode est le récit d'une construction très très lente vers ce qu'on pourrait appeler l'idée de redistribution. La deuxième partie, c'est l'inverse. Donc j'ai pris des événements qui montrent comment cette entreprise de démolition qui arrivait aujourd'hui à l'état des hôpitaux, par exemple, a commencé dans les années 80 avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan, s'est poursuivie avec la chute du mur de Berlin, avec la CSG en France, tout ça. Il y a des éléments historiques, mais tout ça dans le prisme des impôts. Il n'est toujours question que des impôts.
On découvre des choses absolument... Enfin, moi, j'ai découvert des choses absolument ahurissantes que je ne soupçonnais pas, ou plutôt, je n'avais jamais vu l'histoire de cette façon-là. Après la chute du mur de Berlin, il y a un choc de civilisation d'habitude, puisqu'on payait des impôts en Allemagne de l'Ouest, alors qu'en Allemagne de l'Est, on en... payait pratiquement pas.
Oui.
Et donc les Allemands de l'Est ont dû se mettre à payer des impôts.
Oui, j'ai un interlocuteur d'Allemagne de l'Est, un député du Parlement de Brandebourg, qui le dit très bien, ils ont dû apprendre pendant 6 ans, ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils ne payaient pas les taxes. Et puis tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec des arriérés formidables, et puis ça a créé beaucoup de problèmes. Alors ils ont dû payer des impôts, ils avaient le plein emploi, ils ont connu le chômage, donc pour eux, ils ont tiré pas mal de mauvais numéros.
Est-ce que faire ce documentaire a changé votre perception, vous-même, des impôts et même de votre propre imposition, pour dire les choses?
Non, moi je suis relativement content de payer des impôts, ça veut dire que je gagne ma vie, que je fais des films, donc tout va bien. Mais par contre, ça, je trouve que ça donne un drôle de regard sur l'histoire des pays, parce qu'on s'aperçoit combien combien la taxation est soumise aux guerres, comment. Donc je trouve que ça montre comment c'est une question centrale dans la vie politique et qu'on a tendance à souvent édulcorer derrière des propos électoralistes.
Il y a encore un enjeu dont on n'a pas parlé, ce sont les GAFA. Oui. Ces multinationales qui arrivent à échapper à l'impôt et qui dominent beaucoup de choses qui sont parfois plus puissantes que des gouvernements. Est-ce que vous pensez qu'un jour on va réussir à les taxer ?
Je pense que les gens de l'OCDE et Pascal de Saint-Amand, qui est un interlocuteur du film, s'y efforcent déjà depuis une dizaine d'années, qu'ils ont fait des progrès. Mais je crois que ça va mettre un peu de temps, ça va être comme l'impôt sur le revenu. Si l'impôt sur le revenu a mis 30 ans à s'imposer en France, ou même 40 ans à s'imposer en France, imaginez que l'impôt mondial, il va mettre certainement pas mal de temps encore à s'imposer au niveau du monde, et encore faudra-t-il qu'il y ait un taux de progressivité important, parce que là, pour l'instant, ils se sont à peu près entendus à 15%, mais 15%, c'est pas beaucoup. C'est 3% de plus que l'Irlande. Donc, ça va pas changer beaucoup dans la taxation des multinationales.
Dernière petite question, vous avez fait votre déclaration 2022 ?
Ben, écoutez, oui, j'ai reçu un SMS, et d'ailleurs, le programmateur d'Arte est facétieux, puisqu'il l'a diffusé le même jour que la clôture des déclarations.
Cela ne nous avait pas échappé. Je rappelle à nos auditeurs, auditrices, vous avez jusqu'à demain soir pour le faire si vous faites partie des départements qui sont au-dessus de 55. Merci beaucoup Xavier Viltard de votre présence.
Merci
ici
à vous,
dans
Philippe
Culture Média. Histoire populaire des impôts, c'est ce soir à 20h55 justement sur Arte et déjà disponible sur arte.tv. Dans un instant, la journaliste et présentatrice du 13h de TF1, Marie-Sophie Lacaro, elle sera avec nous, elle parle de son grand retour à l'antenne après 5 mois d'absence. À tout de suite sur Europe 1.
Philippe Vandel.
Culture Média.